matin.
Il a bien changé.
Le matin. Ben oui.
Pourquoi pas du petit Offspring à 8h50 ce matin? C'est Marceau le matin, mais c'est avec Jeff Fortin et Max Larouche ce matin, car Marceau est malade. En vacances la semaine prochaine, c'est Pascal CV qui va joindre à moi et Max Larouche. Merci d'être à l'écoute, cher auditeur. Max, es-tu en train de te chicaner pour Jacob Dobesch sur, par texto avec Denis?
Ah, moi, je me chicane tout le temps avec tout le monde.
Ben, c'est ça. Là. Qu'est-ce que Denis nous dit? Salut, Jeff. Max dit n'importe quoi à propos de l'utilisation des gardiens du CH. C'est pour ça que c'est Martin Saint-Louis le coach et non lui. Forward très bon, mais important de ne pas le brûler ben mentalement. Oui. Et toi, tu lui réponds, s'il m'avait écouté, Dobesch n'aurait jamais perdu confiance.
Moi, ça a bien été Saint-Louis avec les goalers depuis le début de l'année. Ouais, ben, faisons-lui confiance à 100%. C'est beau, là.
Ben, c'est ça. Moi, je te donne, ça a été déficient de la façon qu'on a géré Dobesch et Montembeau. On a essayé de redonner énormément de vigueur à Samuel Montembeau. Ça n'a pas fonctionné et ça a déstabilisé Jacob Dobesch. Cependant, je pense que c'était le bon geste à faire de rappeler Fowler pour tenter de redonner de l'énergie.
Ça, oui, puis ça, je suis d'accord. À partir du moment où là, t'as scrappé tes deux goalers, bon, il y en a un qui s'est scrappé tout seul malgré chance après chance après chance. Là, pendant ce temps-là, t'avais le gardien le plus hot de la LNH, littéralement avec les chiffres. Troisième étoile du mois. Ouais. Après ça, il est nommé troisième étoile du mois, tu le fais pas gauler pendant 10 jours pour essayer de repartir ton petit Québécois qui est pas capable d'arrêter un ballon de plage. Ben là, t'as scrappé l'autre entre les deux oreilles aussi. Mais non, c'est beau, faisons-lui confiance à Martin Saint-Louis, le demi-dieu auquel on peut pas toucher à Montréal. C'est beau.
J'adore ta passion, Max Larouche. On va parler avec un passionné également. Passionné, on vient d'apprendre de football, un passionné d'économie. Il est analyste économique et il est président et directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce de Québec. Pierre Graff, comment vas-tu?
Très bien.
Merci.
Très bien. Bonjour, Jeff.
Hey, bonjour. Merci beaucoup de ta présence ce matin dans l'émission Marceau le matin. Pierre, j'ai lu un article hier qui m'a vraiment refroidi quand je vois qu'il y a un recul par rapport aux autres provinces de 2,4% de notre économie par rapport à notre PIB et qu'on commence à parler peut-être du possible mot en R, récession. Peux-tu nous expliquer ce qui se passe au niveau économique au Québec?
Bien, évidemment, le deuxième trimestre, donc c'est vraiment inquiétant ce qui s'est passé parce que lorsqu'on a un recul comme ça, ça fait depuis la pandémie qu'on n'a pas vu un recul aussi important du PIB. Puis ça, évidemment, c'est dû vraiment au recul très marqué au niveau de l'investissement des entreprises dans le contexte tarifaire. Et ça, c'est évidemment très problématique à court, moyen et long terme parce qu'il faut voir l'économie vraiment comme un jeu de domino. Quand il y a des bonnes nouvelles, il y en a un qui tombe, puis après, en cascade, il y a des bonnes nouvelles. En revanche, quand il y en a un qui tombe et que c'est une mauvaise nouvelle, ben là, il y a d'autres dominos qui tombent et c'est forcément pas bon parce que les investissements qu'on fait aujourd'hui, c'est la croissance de demain, la croissance des salaires, la croissance au niveau de la productivité, la croissance globale du PIB. Et ça veut dire qu'on s'enligne pour avoir aussi des trimestres qui vont être difficiles à venir.
Oui, parce qu'on parle en termes d'investissement, une baisse de 4,8% du côté des entreprises au Québec. Alors, ça veut dire que si on investit moins, mais notre productivité augmentera jamais. Donc, on est-tu en train de se créer un mauvais cercle au Québec?
Exactement. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Donc, assurément, ce qui se passe, c'est que généralement, quand on investit là, en capital, en biens et services, c'est que ça fait tourner l'économie. Il y a des fournisseurs qui vont fournir des machines, qui vont fournir des services de consultants pour réorganiser une usine, pour peut-être implanter un logiciel. Déjà, ces fournisseurs-là ont moins d'ouvrages. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que la productivité met beaucoup de temps généralement, parfois dans des gros projets d'investissement, à se manifester. Et ça, on le voit dans les trimestres, les années suivantes. Ce qui fait que là, ultimement, on hypothèque cette croissance marginale-là, donc cette croissance qui est spécifique à ce recul de l'investissement. Et ça, c'est extrêmement problématique parce qu'après, il faut relancer la machine. L'élément qui est quand même intéressant vraiment à regarder, c'est qu'il y a vraiment un élément très conjoncturel. Il y a eu ce qu'on appelle du front-loading aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de stock au premier trimestre. Vraiment, les exportations vers les États-Unis avaient monté d'un coup de 15% parce que les États-Unis voulaient se parer aux tarifs. Et en ce moment aussi, c'est-à-dire qu'ils vivent sur tout ce qu'ils ont acheté comme biens et services en avance auprès des Québécois, des exportateurs québécois, ce qui fait que ils consommaient moins pendant un, deux, voire trois trimestres. Et donc, ce qu'il va falloir surveiller, c'est si au quatrième trimestre qui est en ce moment, lorsqu'on aura les chiffres, on verra un rebond qui permet quelque part d'alléger un peu notre peine face à ces chiffres-là.
Pendant la pandémie et même des années après, on disait beaucoup que la pandémie avait le dos large. Tout était de la faute dans bien des secteurs, mais notamment l'économie, la COVID, là, puis on comprend qu'en effet, ça a eu d'énormes impacts. Mais c'est qu'à un moment donné, on se posait la question, OK, jusqu'à quel point, quelques années plus tard, on peut encore tout mettre là-dessus? Je fais un parallèle avec ce qu'on dit présentement face aux tarifs de Donald Trump. Est-ce que les mauvaises nouvelles qu'on reçoit là, c'est vraiment entièrement ou presque lié aux tarifs de Trump? Ou bien s'il y a quand même des affaires de notre bord qu'on aurait pu faire différemment pour qu'on s'en sorte mieux?
Bien, il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est que historiquement, structurellement, le Québec, il y a moins d'investissements qu'en moyenne par année qu'aux États-Unis. Ça, c'est dû en raison de différents facteurs, que ce soit la fiscalité, que ce soit la lourdeur administrative et réglementaire. C'est vrai. Mais il y a quand même eu un rebond. On a vu en 2023, on avait d'excellents chiffres, puis c'était quand même assez encourageant. Il y a différentes mesures, des incitatifs qui étaient entrés en place. Par contre, ce qui a pesé vraiment cette année, puis là, c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté, c'est l'incertitude. Et l'incertitude en tant que telle, c'est un tarif, parce que les entreprises n'ont pas tous les éléments pour prendre les meilleures décisions qui sont liées à des risques, parce que l'investissement, c'est du risque.
Et dans ce temps-là,
malheureusement, ils ont pesé ces breaks avec les deux pieds. Et ce qui fait qu'on est arrivé malheureusement avec ces chiffres-là. Pour l'instant, les analystes s'entendent pour dire qu'il y aura un rebond vraiment au quatrième trimestre. Il va falloir espérer que ce soit le cas et surtout surveiller s'il y a vraiment aussi une différence par rapport aux autres provinces canadiennes. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas demeurer dans une économie où l'investissement n'a pas lieu parce qu'on n'a pas la même structure de l'économie aussi, où la consommation prend autant de place qu'aux États-Unis. Et donc, il faut que les entreprises investissent pour être capables, justement, de supporter la croissance dont on a besoin pour augmenter les salaires, pour faire tourner l'économie, pour investir dans la formation des employés, etc., etc.
Justement, parlons-en de cette structure-là, parce que nos paliers de gouvernement, que ce soit canadien ou au Québec, parlent énormément depuis la crise tarifaire de diversifier notre économie, de développer des nouveaux marchés, notamment l'Europe. On veut développer le volet de l'armement en justement investissant davantage dans l'armée. Mais est-ce que ça va avoir des impacts vraiment significatifs ou ce qui aurait plus d'impact significatif, ça serait retravailler la fiscalité de nos entreprises?
Alors, trois éléments de réponse. Le premier, c'est diversification des marchés. Deuxième, c'est diversification de l'économie. Oui. Troisième, fiscalité. Diversification des marchés. Comme je l'ai dit, l'investissement, lorsqu'on investit aujourd'hui, ça ne produit pas des effets immédiats. Mm-hmm. Puis pour aller explorer de nouveaux marchés, comprendre de nouveaux marchés, développer des relations commerciales, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Oui, c'est ça. Ça se fait pas demain matin je produis, des meubles en bois, puis là, aux États-Unis, il y a un tarif trop élevé, je vais aller le vendre en France.
Puis de la même manière, il y a une réalité aussi. Si vous regardez, par exemple, en Beauce, il y a beaucoup de producteurs de structures d'acier. Les structures d'acier, on peut les envoyer par camion à Boston, mm-hmm. mais on ne peut pas les envoyer en ce moment au Kazakhstan. Là. Ça ne fonctionne pas de même.
En effet.
Donc, il y a quand même différentes barrières. Mais c'est évidemment une bonne chose d'essayer de se diversifier. Diversifier son économie, oui, on le veut, mais l'armement, l'aéronautique, c'est des industries pour lesquelles il y a d'énormes barrières d'entrée. On ne peut pas rentrer du jour au lendemain et se dire « je vais construire des jets puis je vais les vendre ». Ça ne fonctionne pas de même. Là. Ce qu'il faut investir comme capital pour être capable de faire ça, c'est extrêmement problématique. Donc, c'est sûr qu'on va s'appuyer sur des grands joueurs qui, d'ailleurs, vont très bien, Bombardier, Pratt & Whitney, etc. Tant mieux, c'est ce qu'il faut parce que ça drive aussi ensuite l'innovation, les plus petites compagnies qui sont leurs fournisseurs, etc. Par contre, c'est sûr que si on veut avoir, je pense, le meilleur impact immédiat pour créer de la marge pour que les entreprises décident de risquer plus d'investissement, c'est sûr que de baisser directement la fiscalité des entreprises est la meilleure mesure. Historiquement, ça a toujours été le cas. On a vu un rebond assez important dès que la fiscalité des entreprises a baissé. Par contre, malheureusement, la situation budgétaire, autant au fédéral qu'au provincial, laisse peu de marge de manœuvre. Et c'est donc peu probable qu'au printemps, donc en mars et en avril, au budget du Québec et à la mise à jour budgétaire fédérale, ça arrive.
Oui, c'est ça, parce qu'on a trop besoin présentement des impôts et des taxes qui sont payées par les entreprises, taxes sur la masse salariale, par exemple, pour justement venir travailler sur la fiscalité. Fait que c'est pour ça qu'on travaille à essayer de développer des nouveaux marchés, mais l'impact est beaucoup plus à long terme que si on travaillait sur la fiscalité.
Exactement. Donc, aujourd'hui, on a cette structure, on a ces enjeux-là. Donc, le but, c'est vraiment de trouver les différents leviers qui vont nous permettre de relancer la productivité qui, ultimement, permettra vraiment de relancer la croissance québécoise et la croissance canadienne, tout en jonglant, évidemment, avec les tarifs, avec les pertes d'emplois et les sièges sociaux comme Stellantis qui sont partis au sud de la frontière. Donc, on a quand même un beau problème devant nous, mais j'ai confiance. On a des entrepreneurs résilients, puis je suis persuadé qu'ils nous montreront la voie pour être capables de se relever.
En terminant, Pierre, tu vois ça. Comment est-ce que tu es parmi les plus optimistes pour 2026 qui voient une croissance économique qui pourrait avoisiner le 2 % ou tu es parmi les pessimistes qui le voient en bas d'un pour cent?
En fait, si on regarde vraiment les prévisions, les plus optimistes, maintenant, ils ont baissé leurs estimations à 1,5% de croissance réelle. Mm-hmm. C'est-à-dire une fois qu'on déduit l'inflation.
Oui.
Pour vous donner une idée par rapport aux États-Unis, les États-Unis, en ce moment, il y a des prévisions jusqu'à 3,5%. Donc, par contre, on n'a pas encore nécessairement introduit les impacts des tarifs. Là. C'est parce que ça va commencer à faire mal aux États-Unis à partir de janvier 2026.
Okay. Donc, c'est pour ça qu'on est plus à 3,5, c'est ma question.
Aux États-Unis, au Québec et au Canada, on est plus entre 0,9% et vraiment meilleur des scénarios, 1,5%. Donc, je vais me ranger du côté du consensus, là, qui est plutôt autour de 1%. Ouais. Puis, on va espérer qu'il y ait des bonnes nouvelles, puis une entente qui s'associe avec les États-Unis, mm-hmm. ce qui pourrait donner vraiment un boost de confiance à la fois pour les investisseurs et pour les entreprises et être capable justement de battre les estimations.
Parce qu'à 1%, on est-tu près d'une récession ou pas encore?
Non, ben, la récession en termes techniques, c'est deux trimestres de suite avec un recul du PIB.
OK.
Donc c'est sûr qu'à partir du moment où on parle d'une croissance, il peut y avoir un trimestre, peut-être même deux, on va dire, exceptionnellement, mm-hmm. qui soit négatif, mais une croissance supérieure les deux autres trimestres pour contrebalancer ça. Alors, pour l'instant, je pense qu'on va se tenir loin du mot en R pour l'année 2026. Pour l'année 2025, malheureusement, on sera peut-être dedans.
C'est ça, hein, exactement. Pierre Graff est analyste économique et également président et directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir pris le temps ce matin de nous démystifier ces statistiques en économie. Pour plaisir de se reparler bientôt.
Merci, Max. Merci, Jeff.
Merci beaucoup. Après la pause, Max, on va parler avec Alex Laramé qui va justement revenir sur Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, qui demande une enquête au ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, concernant son chef de police. C'est par rapport, là, justement, aux actions qui ont été prises à la suite du décès du jeune de 15 ans qui s'est produit à Longueuil au mois de septembre. On profitera d'Alex Laramé. Max, qu'est-ce que t'en penses pour faire nos petites prédictions de football avec lui?
Ah ben oui.
Il est quand même dans notre pôle de foot. Moi puis lui, on est très bas. Toi, t'es haut. Fait qu'on va t'écouter parler, justement, Maître Max. Mais avant, il y a de la circulation.
Ouais, juste vous dire, Capital Est, Auto Boulevard Saint-Jacques, la voie droite qui est bloquée par une panne, mais autrement, là, ça se passe très bien sur les routes.
Excellent. Alors, après la pause, Alex Laramé se branche avec nous en direct de Montréal. On va parler de la situation à Longueuil avec le chef de police. C'est vraiment pas rose. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101 à l'émission d'Enjase. Boulevard.